الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شيخ رسول toutes les louanges reviennent à Allah Rabbul Izzah qui nous permet d'avancer dans nos jeûnes. Nous sommes aujourd'hui mardi 19 mars, c'est le 8e Ramadan pour nous à La Réunion, et par la grâce d'Allah, ceux qui ont suivi la Salat al-Tarawih dans une des masajid de La Réunion, tous ceux qui avancent à un rythme de 1 juz et quart, un sipara et quart, nous avons complété hier soir le 10e juz wa'alamu annama ghanimtum min shay. C'est-à-dire qu'hier soir, nous avons complété thuluthul Qur'an, le tiers du Qur'an, en espérant qu'Allah Rabbul Izzah accepte nos salatu tarawih, ces longues positions debout, de génuflexion, de prosternation, après une journée de travail et une journée de jeûne où se cumulent fatigue, manque de sommeil, déshydratation, ce qui provoque souvent, qui cause des migraines, mal à la tête, et souvent déshydratation égale synonyme de douleur articulaire. C'est une réalité. Très souvent, on a mal au genou, mal au mollet, au bassin, aux hanches, dans la salat al-tarawih, mais on tient, on essaie de rester jusqu'au bout. Hatta yansarif, c'est important, jusqu'à ce que l'imam ait complété, et complété la totalité de sa salat. Et on a espoir que, en restant jusqu'à la fin, Allah nous accorde l'équivalent de la nuit passée en ibadah. C'est une action qui est peut-être un peu complexe, un peu difficile, qui demande beaucoup d'efforts, mais nous devons prendre conscience que c'est certainement la seule ibadah que nous accomplissons et qui nous demande un effort, qui nous demande un grand mujahada. Dans notre quotidien, dans notre pratique de la religion, très souvent, nous restons dans notre zone de confort. Mis à part la salat de Fajr, que nous nous efforçons de faire à la masjid, ce qui est, mashallah, une bonne action, mais en dehors de la salat de Fajr, très souvent, nos bonnes actions, on les fait de façon assez modérée, assez cool, quoi. Donc, on ne sort pas de notre zone de confort réellement. Mais c'est dans le mois de Ramadan qu'on fait un effort sur soi, mujahada, sur notre rythme de vie, nourriture, boisson et ainsi de suite, mais en mujahada également dans nos bonnes œuvres, une grosse implication physique. Et donc à chaque fois qu'on complète une soirée de salat ou tarawih, ou alors qu'on est au 10e ou au 12e ou au 14e raka'a et qu'on sent que voilà, on commence à être un peu fatigué, épuisé, on se rappelle qu'on est en train de faire ça pour Allah. J'ai mal au genou, j'ai mal à la tête, je lutte contre le sommeil et j'essaie de m'accrocher à la lecture du imam. C'est un petit sacrifice que je fais pour Allah. Je montre à mon Seigneur, Rabbul Izzah, qui connaît ma bonne intention, je montre à mon Seigneur ma dévotion, mon istislam lillah, ma soumission à lui et mon envie de me rapprocher de lui. Mon souhait intime, sincère, qui est au plus profond de mon cœur, que mon Seigneur ait un regard de clémence sur moi, qu'Allah m'aime tout simplement, qu'Allah soit satisfait de moi et qu'Allah m'aime, afin qu'il pardonne mes péchés, afin qu'il m'accorde le meilleur de ce dunya et du akhira, et surtout que le jour où je reviendrai vers lui, qu'Allah soit satisfait de moi. Donc on a parlé d'un sacrifice à faire à différents niveaux pour avoir les récompenses du jeûne, plusieurs mujahada. Et la dernière fois, on avait parlé du contrôle de la langue. Et on avait, à la fin, un peu introduit salamatul quloub, le fait d'avoir un cœur pur. Avoir un cœur pur, je vais plutôt dire, le fait d'épurer son cœur. Parce qu'avoir un cœur pur, c'est le résultat. Qalbun salim, en amont, il y a des efforts à faire au quotidien. Mais au quotidien, vous savez, ce n'est peut-être pas toujours évident, parce que dans le contexte et le monde dans lequel nous vivons, nous avons beaucoup d'interactions sociales, beaucoup de liens avec les gens dans la rue, au travail, au bureau, à la masjid et ainsi de suite. Et très souvent, vous savez, quand il y a trop d'êtres humains qui se fréquentent, ça fait beaucoup de modes de pensée différentes. Et il est tout à fait normal que des fois, il y a des mini-clashs, il y a des oppositions, il y a des incompréhensions, il y a des frustrations. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent et qui font partie des épreuves, des petites épreuves de l'être humain qui concernent la vie en société. Il y avait un hadith, j'essaie de me souvenir des termes, où il est mentionné les vertus de ce croyant qui vit au sein de la société et qui fait preuve de patience et qui a un bon comportement avec tout le monde. Et que cette personne a plus de valeur que celui qui s'est isolé et qui habite donc seul. Il y a des gens qui ne veulent plus voir personne parce qu'ils ont eu des problèmes, il y a eu un divorce difficile, il y a eu des ragots à leur propos, il y a eu des paroles déplacées, et donc ils prennent la décision d'aller s'installer dans un coin perdu. D'accord ? Dans un endroit où il n'y a pas de musulmans, ainsi de suite, pour qu'ils ne croisent personne. Et du fait qu'ils ne croisent personne, ben, ils vivent seuls, en mode ermite un peu. Mais quand vous vivez seul, ben vous n'avez pas à lutter contre la jalousie, contre les mauvaises pensées. Vous n'avez pas à faire l'impasse sur des paroles déplacées, sur des comportements qui sont agaçants, d'accord ? Donc il n'y a pas grande, il n'y a pas beaucoup de vertu à rester seul. Par contre, vivre au sein de la communauté, apporter ce qu'on peut apporter aux gens et en même temps faire preuve de patience face aux excès de comportement de nos frères et sœurs et des gens de façon générale, en étant patient, en ayant le bon comportement, ça c'est quelque chose de noble. Ainsi donc, dans le mois de Ramadan, Allah Rabbul Izzah nous donne cette guidée, cette hidayah. Allah nous protège des waswasa, des insufflations des shaitan, ce qui fait qu'on est au summum de notre potentiel. Et c'est vraiment durant ce mois de Ramadan qu'on peut contrôler notre cœur. Et le hadith qu'on avait cité la dernière fois, c'était donc le conseil prophétique qui est suivi tout de suite après d'un exemple concret. Parce que notre dîn, ce n'est pas une religion de thèse. Ce n'est pas une religion où on prône uniquement des valeurs, mais c'est une religion où on prône, on propage et on met immédiatement en pratique. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui qui a donné le meilleur exemple en termes de pratique, d'où le verset « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des muballighs, celui qui a propagé « يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ » Le prophète nous a donné tout ce qu'Allah lui a accordé. C'est pour ça que si à notre époque, une personne apporte une action de la religion, innove quelque chose, améliore une action que le prophète a enseignée ou le fait d'une façon différente, c'est que la personne, a'oudhu billah, ne fait pas confiance à l'enseignement prophétique. Et si je ne me trompe pas d'imam, c'est Imam Shafi'i, Imam Malik, qui dit justement, qui va justement dans ce sens, qui dit que celui qui apporte quelque chose que le prophète n'avait pas apporté, c'est comme si que, intérieurement il pense « An-Nabi sallam khana ar-risala » et « khana » On connaît peut-être le mot khiana, c'est trompé. C'est comme si qu'il pense que le prophète sallam avait nous a trompé dans na'oud billah la propagation de la mission, il y a qu'il y avait de bonnes œuvres qui auraient été profitables pour cette umma mais qu'il n'a pas propagé ou na'oud billah kana yajhal na'oud billah qu'il ne connaissait pas. Alors nous au 20e siècle, on va apporter des actions que le prophète sallam et les sahaba n'avaient pas mises en pratique, ce qui est totalement incohérent. Il faut qu'on garde un raisonnement cohérent. Bon, allez, je reviens vers le fait de contrôler son cœur. Et justement, le prophète sallam enseignait, propageait, et il était le premier à le mettre en application. Donc, le hadith qu'on avait cité il y a quelques jours, c'est lorsque le prophète sallam dit que jeûner, ce n'est pas uniquement s'abstenir de manger et de boire. Jeûner, c'est également rester éloigné totalement des futilités et des obscénités. Et là, le prophète sallam donne un exemple concret, parce que nous sommes une religion concrète et cohérente, où les actes suivent les thèses et les bonnes paroles. Fainsa baka ahadun aw jahil alayka faqul inni sa'im. Si quelqu'un t'insulte ou quelqu'un dit des choses à des propos désobligeants te concernant, surtout ne pas s'énerver. Surtout ne pas, ça c'est moi qui dis, ne pas se prendre la tête, ne pas répliquer, ne pas entrer dans un cycle d'arguments, contre-arguments, et ainsi de suite, la personne a juste à dire « inni sa'im ». Donc ça, c'est vraiment une thèse qu'il y a pour le croyant que de se contrôler. Contrôler son cœur en premier, faire en sorte que la colère ne monte pas. Parce que vous savez que la colère, al-ghadabu min ash-shaytan, la colère, elle vient du diable, elle vient des shaytan. Le prophète sallam avait vu, enfin, on va pas citer trop d'exemples, ça ferait trop long. Sahaba qui prend la colère, le prophète sallam avait conseillé de dire al-dulam shaytan rajim, ainsi de suite. Parce que shaytan, c'est accumule de le corps de l'être humain, majjad dam, comme le sang. Et shaytan aime avant tout que le croyant perd ses moyens et s'énerve. Parce que quand on s'énerve, on peut dire des paroles, na'oud billah, désobligeantes, qu'on risque de regretter, et ainsi de suite. Donc, le saum te donne, le jeûne, te donne les conditions optimales, on va dire, pour contrôler ton cœur. Et lorsqu'il y a ce genre de scénario, ce cas de figure qui se présente à toi, je prendrai un exemple parmi tant d'autres, parce qu'on a besoin d'exemples concrets, refus de priorité. Refus de priorité, et je vais même plus loin. Parce que j'ai déjà assisté à ce genre de scène, refus de priorité, et quand vous klaxonnez la personne, il vous fait un geste obscène. Un geste obscène, on a compris de quoi il s'agit. Gardez son calme. Ne pas laisser la colère monter, ne pas prononcer des paroles non plus, des insultes ou autre chose, et encore moins manifester sa colère. C'est un travail à faire sur soi, et on a, si c'est vraiment, il y a un moment de l'année où on peut se contrôler, c'est durant le mois de Ramadan, Allah nous donne la possibilité de le faire. Et justement, chers frères et sœurs, salamatul quloubi, le fait de préserver son cœur, de l'épurer, d'essayer de faire les efforts pour avoir un cœur pur, c'était ce qui distinguait les sahaba, les enfants des sahaba, les tabi'in, c'est-à-dire les meilleures générations. Les meilleures des générations, c'est les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont venus et ceux qui sont venus après. Et dans la sourate Al-Hashr, Allah Rabbul Izzah nous révèle à propos justement de ces personnes, de ceux qui sont venus après les sahaba, quelle était la pureté de leur cœur. Il disait, Allah décrit leur qualité, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا. Il disait, oh Allah, accorde-nous le pardon, وَلِيْخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ, ainsi qu'à nos frères, ainsi qu'à ceux, le sens du verset, qu'à ceux qui nous ont précédés dans la foi. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا. Al-ghil, c'est l'animosité, la haine. Oh Allah, ne met aucune haine ni animosité dans nos cœurs, à l'encontre de l'illadina amanu rabbana, à l'encontre de ceux qui ont la foi. Et rabbana, justement rabbana, c'est après rabbana innaka ra'ouf rahim. Et là, ils disent qu'ils implorent Allah, ils attestent qu'Allah est pardonneur et clément, c'est le sens du verset. En commentaire, les mufassirin rahimahumullah disent que Allah Azza wa Jal a décrit leur noble comportement par deux choses. Ils avaient deux qualités essentielles. Premièrement, tata'allaqu bil lisan, et deuxièmement, tata'allaqu bil qalbi. Ils ne prononçaient jamais de paroles désobligeantes à l'encontre de leurs frères et sœurs. Jamais de riba, de bohtan, ainsi de suite. Mais quand ils parlaient de leur prochain, c'était toujours pour de belles choses. Et entre autres, demander doua, faire des invocations pour les frères et sœurs, et demander pardon pour eux. Et deuxième qualité, tata'allaqu bil qalbi, concernant le cœur, ils imploraient Allah pour que jamais il n'y ait de leur cœur un soupçon de haine, de jalousie, d'animosité, de rancœur contre leurs frères et sœurs, parce que ce sont des qualités qui sont importantes. Certains pieux prédécesseurs, je lis, ya'uddun al-afdal fihim, aslamuhum sadran wa lisana, ils considéraient les meilleurs parmi eux ceux qui avaient le cœur le plus pur et la langue la plus préservée. Pour eux, c'était eux les meilleurs des croyants. Ils ne jugeaient pas leur prochain sur leur présence. Enfin, je dis pas que la présence à leur salle n'est pas obligatoire, mais c'était pas le critère pour eux. Parce que tout le monde venait à leur salle. Tout le monde venait à la masjid, bien sûr. Mais c'est pas parce qu'ils voyaient quelqu'un plongé dans la lecture du Coran et tout, qu'il le considérait comme quelqu'un de spécial. Non, il regardait avant tout la pureté du cœur et le fait que ces gens préservaient leur langue et ne portaient atteinte à personne, ni par leur parole et encore moins par leur pensée. On a une citation de Iyas ibn Muawiyah ibn Qurra. Il dit « Kana afdaluhum indahum » parmi les pieux prédécesseurs, Les meilleurs, c'était, on reprend, aslamahum soudura, ceux qui avaient le cœur, soudur, la poitrine, qu'on peut traduire par cœur, le cœur le plus pur et la langue la plus préservée, wa aqalluhum ribatan, et ceux qui faisaient le moins la médisance. Ça, c'est extrêmement important, mes chers frères et sœurs, d'essayer de garder ce cœur pur, de n'avoir aucune mauvaise pensée à l'encontre de ce que je dis. Tout à l'heure, le cœur pur, mais on n'arrive peut-être pas à comprendre. Si je vous dis un vêtement pur, c'est clair, ça me parle. C'est un vêtement, il n'y a pas de tache, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de trace. Si je dis un membre du corps qui est pur, je comprends. Je me lave les pieds, par exemple, il n'y a plus de saleté, il n'y a pas de crasse, il n'y a rien du tout. Ça, c'est très clair, ça, c'est concret, ça me parle directement. Mais quand je dis un cœur pur, il n'y a pas de lavage du cœur, hein, d'accord? C'est pas qu'on va mettre de l'zamzam sur notre cœur, non, ça, c'est pas notre niveau, ça. Aucunement. Le cœur pur, c'est avant tout un cœur où il n'y aura jamais de mauvaise pensée à l'encontre de son prochain. Et c'est là que, on touche du doigt un point important. Hadith que le Prophète nous a dit que iyyakum adh-dhann, attention aux pensées, dans le sens de aux mauvaises pensées. Parce que les mauvaises pensées, c'est akdabul ahadith, le sens du hadith, ce sont les pires des pensées, enfin, les mauvaises pensées, c'est la pire des réactions. C'est la pire des insufflations qu'on peut avoir parce que les mauvaises pensées viennent directement de Shaitan. Que nous soyons connectés en Wi-Fi ou en Ethernet ou au câble, ou Shaitan n'a pas besoin de tout ça. C'est un lien direct qu'il a avec ton cœur, quel que soit ton parcours spirituel. Tu peux être, mashallah, un peu novice dans la pratique, tu peux être, mashallah, quelqu'un qui pratique régulièrement, ou une personne qui a atteint un certain degré de la connaissance religieuse, ainsi de suite. Mais Shaitan aura toujours accès à ton cœur parce qu'Allah Rabbul Izza nous l'a confirmé à l'avis yuwaswisu fi suduri nas, celui qui insuffle de la poitrine des gens. Et la première chose, on va dire, la base de Shaitan dans les relations avec notre prochain, c'est su'udhan. On voit une personne, tout de suite on pense à son passif, à son divorce, à sa relation avec sa belle famille et ainsi de suite. Où on voit un étranger, on pense tout de suite que lui c'est quelqu'un de malhonnête, c'est quelqu'un qui veut abuser de nos biens, c'est quelqu'un qui veut s'installer, c'est quelqu'un qui veut, il est là pour les prestations sociales. Bref, nombre de mauvaises pensées, et j'en ai cité que quelques-uns, que Shaitan met dans nos cœurs, également dans les relations familiales, parfois dans la relation de couple. Oui, dans la relation de couple, Shaitan fait un travail énorme. Parce que une consécration, la Champions League pour les Shayatrin, c'est un divorce. Et donc, Shaitan va mettre le cœur. Je ne dis pas que la femme a un cœur plus faible que l'homme, mais une certaine sensibilité. Là, je pense qu'on est d'accord. Une certaine sensibilité qui fait que si le mari arrive un peu en retard du travail ou autre chose, Shaitan va mettre le cœur. Oui, peut-être qu'il était avec une autre, avec une collègue, il était avec une stagiaire, il était avec, et ainsi de suite. Ce sont des wasawis de Shaitan qu'il faut éloigner complètement en disant A'udhu billahi mina shaitan rajim. Je vais dire tout simplement, mais c'est la formule qui marche. Je continue. On a une citation de Soufiane ibn Dinar, rahimahullah, dit Qultul yabi Bashir. Abi Bashir faisait partie des compagnons de Ali. Donc on est dans la génération des tabi'in. أخبرني عن أعمال من عن أعمال من كان قبلنا عن أعمال من كان قبلنا. Comment il s'appelait? Il avait demandé à Abu Bishr, donne-moi, informe-moi des actions de ceux qui nous avaient précédés. كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون ويؤجرون كثيرا. Ils faisaient peu d'actions, dans le sens où ils faisaient des actions, mais on ne voyait pas beaucoup de leurs actions. Peut-être qu'ils faisaient chez eux aussi. Mais ils avaient énormément de rétributions auprès d'Allah. قُلْتُ وَلِمَذَا عَلِكُ. Demandez pourquoi un nombre d'actions modérées et autant de récompenses. لِسَلَامَةِ الصُّدُورِ. Parce qu'ils avaient le cœur toujours pur, jamais de mauvaises pensées. Et là, le Dieu a dit Ramadan فُرْصَةٌ ذَهَبِيَّةٌ وَهِبَةٌ إِلَهِيَّةٌ. C'est très beau ce qu'il dit. Ramadan est une occasion en or et un don divin, un cadeau de la part d'Allah pour enfin te permettre de libérer ton cœur de al-hiqd wal-hasad wal-bughd wal-ghiba wal-namima wal-ghish wal-kadhib et ainsi de suite. Une liste pour te libérer de tous ses défauts, la jalousie, les mauvaises pensées, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, l'auteur nous dit que faisons très attention, parce que là, on passe un peu, on avait dit avant-hier, on passe un peu de l'autorité, les mises en garde. Jusqu'à maintenant, on allait vers les vertus et les récompenses et tout ce que ce moine nous apporte. Mais nous devons savoir également que le prophète m'a dit, Al-basa'i min hafdhuhu min siyamihi al-ju'u wa la'atash. Ça, c'est grave, ça. Hadith rapporté par Imam Ahmad, hadith qui est très connu, dit certains jeûneurs n'auront de leur journée de jeûne que la faim et la soif. Alors j'entends des personnes, je connais un peu les grincheux, qui ont toujours des remarques, oui, on dit ça, faut pas décourager tout le monde, il faut annoncer de bonnes nouvelles. Oui, bien sûr, on essaie de le faire au mieux, mais le prophète nous a dit aussi, je me rappelle une fois dans un programme, un discours sur le mariage, j'en fais plus des discours sur le mariage, parce que, bref, j'avais dit, en faisant référence au verset, le verset qu'on cite souvent dans les mariages, que dans le paradis, les gens se retrouvent avec ceux qui avaient les qualités, parmi leurs épouses, les parents, les ascendants et les descendants. Et j'ai dit que par mafhoum mukha à la fin, compréhension inversée, s'il n'y a pas waman salaha, si au sein d'un couple, par exemple, le mari ne prie pas du tout, alors que la femme, mashallah, est engagée, elle prie, elle fait de bonnes œuvres, il serait dommage que dans le Jannah, l'homme et la femme ne soient pas ensemble. Et là, on m'a dit, oui, il ne faut pas dire ça, c'est pas... Il faut voir les choses en face. On a une part de tarhib, de le din, et une part de tarhib aussi. On n'est pas dans une religion de uniquement, enfin, je ne vais pas faire de métaphore déplacée, il ne faut pas non plus voir la pratique et le paradis comme un monde de bisounours où tout le monde ira. C'est pas ce que disait l'autre, je sais pas comment il s'appelait, Paul Naref ou autre, on entendait ça dans les grandes surfaces et on était un peu interpellés. On ira tous au paradis, les blancs, les noirs, les riches, les pauvres, espérons, tout le monde ira. Mais c'est pas aussi simple. Il faut avoir les qualités et rester éloigné, donc faire attention aux manquements. Ainsi donc, il y a des gens qui n'auront de leur journée de jeûne que la faim et la soif, parce que, en commentaire, les muhaddithines disent, ce sont des gens qui n'auront fait aucun effort pour contrôler leur cœur, contrôler leurs paroles, ou leur prise de décision, et ainsi de suite. Je pense à ce chef d'entreprise, ce patron musulman qui a des employés qui ont jeûné également, mais qui n'aura aucune pitié. Il va leur demander la même quantité de travail, s'il faut porter, je sais plus, ça se fait encore de porter, maintenant il y a des appareils pour les palettes et tout, mais gardons cet exemple, s'il avait l'habitude de les faire porter, je sais pas, 100 kilos de riz déplacés d'un camion à l'autre, mais il dit que non, le travail c'est le travail, ou karem c'est le cas, ou karem c'est où il y a Allah, et travail c'est travail, à la fin du mois, mais pas il y a au pareil, c'est dur, ce sont des paroles très dures, ce sont des paroles très difficiles à prononcer même, j'en ai des frissons, et masakin, ceux qui entendent ce genre de propos, c'est dur, et ça c'est dalil ala qaswatil qalbi, c'est une preuve que le cœur est dur, le cœur est imperméable, il n'y a pas de rahma, et qu'Allah nous protège, parce que ceux qui n'ont pas de rahma, de miséricorde pour le prochain, n'auront pas la miséricorde d'Allah, ce qui découle d'un hadith connu, ar-rahma yarhamuhum ar-rahman, irhamu man fil ardi, irhamukum man fis sama, ceux qui font preuve de compassion et de clémence auront et bénéficieront de la compassion et de la clémence de leur Seigneur. Ayez pitié, ayez de la compassion, de l'empathie pour les gens sur cette terre, et ceux qui sont dans les cieux auront de la compassion et de l'empathie pour vous. C'est un hadith très important qui nous permet de nous resituer au sein de la société et de savoir et de prendre conscience que nous devons avoir, un, le cœur pur, deux, avoir les meilleures intentions, et trois, agir de la meilleure des façons. Même si nous sommes entourés de personnes mal intentionnées, de personnes qui ont le pire des comportements, et c'est un des points qu'on avait évoqué avant-hier, dimanche, dans l'intervention à la Masjid Nour al-Islam. Parmi les qualités des gens qui accèdent au Jannah, le verset ne me revient pas. Oui, non, le verset ne me revient pas, mais j'ai la traduction. Ce sont des personnes qui, lorsqu'on leur fait du mal, ils rendent le mal par le bien. Ils ne rendent pas le mal par le mal, bien au contraire, quand on les fait du tort, ils répondent par un meilleur comportement. Ce sont des gens qui accèdent au Jannah. Qu'Allah nous accorde cette qualité. On va s'arrêter parce qu'il y a encore d'autres éléments à citer. Du coup, poil le cœur, on va faire en deux parties. Et donc demain, ce sera la dernière partie, le dernier programme concernant, on va dire, les qualités à développer pendant le jeûne. Et bi'idhnillah, qu'Allah nous accepte pour ensuite passer en mode tafsir. Subhanallah, rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.